Bonjour, vous écoutez l'épisode 59 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui d'éduquer à la temporalité. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité et aux émotions après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Et maintenant, j'ai à cœur de vous aider à savourer votre vie de famille, à apaiser les émotions de chacun et à retrouver du temps de qualité pour vous, votre couple et vos enfants. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé sur Instagram, notamment par rapport aux absences des parents, alternativement, et j'avais aujourd'hui envie de vous faire un petit épisode récapitulatif sur comment les enfants comprennent les notions de temps, de temporalité, de durée. C'est une notion qui est assez difficile à comprendre, c'est une notion abstraite, c'est un sujet qui est très important pour moi, c'est comme un sujet doudou. Et comprendre le temps pour un jeune enfant, c'est tellement compliqué que ça met plusieurs années à s'installer. Ça se construit depuis leur 1 an jusqu'à leur 6 ans. Et même en CP, on voit que certains élèves n'ont pas encore bien la maîtrise de ce sujet de la temporalité. Il va en fait construire toutes ces notions intérieurement, en se confrontant à la réalité, donc la réalité de la famille, tout ce qu'on va lui apprendre en famille, tout ce qu'il va entendre au centre de loisirs, à l'école, à ses activités sportives, à ses activités créatives, tout ce qu'il va entendre aussi en vacances, tout ce qu'il va entendre avec ses amis dans le parc. Toutes ces notions-là vont se surajouter, vont se surexposer, vont se superposer, et à la fin, il va comprendre de mieux en mieux, il va affiner sa perception du temps. Alors, pourquoi c'est important d'aider nos enfants à comprendre cette notion du temps et de la durée? Déjà, ça va les aider beaucoup pour comprendre la notion de séparation. J'en ai parlé dans l'épisode 17. Si l'enfant comprend la durée et comprend qu'il y a un retour, comprend que c'est une petite distance, une petite durée, un petit temps d'absence, il sera plus à même d'accepter la séparation et il va renforcer son principe d'attachement. Donc cette notion du temps, elle va être importante pour faciliter les séparations, que ce soit des parents, que ce soit sur les vacances, donc elle va jouer sur ce domaine-là. La notion du temps, elle va aussi apaiser beaucoup ses frustrations et son principe de plaisir. Quand on lui dit non, quand on lui arrête son activité en plein vol, quand on l'empêche de jouer librement, hein, comme on a parlé dans l'épisode du jeu libre, ces moments de frustration, ces moments d'émotion qu'il va ressentir, ces flammes désagréables dans sa cheminée des émotions, ça va être plus facile de les comprendre pour lui s'il comprend la notion de temporalité et de durée. Donc cette notion va l'aider à apaiser ses flammes désagréables, à développer ses flammes agréables dans sa cheminée. Tout ce qui se rapporte à la cheminée des émotions, j'en ai parlé dans l'épisode 9 et 10, si vous voulez aller réécouter cet épisode-là. Et puis, ça va aussi aider à muscler sa patience, parce que la compréhension du temps et des durées, c'est une manière de voir que quand on patiente, on peut avoir des effets positifs, on peut avoir un intérêt à patienter, parce que peut-être en maintenant un goût de l'effort, en maintenant une posture, une attitude, un comportement, on va avoir des résultats. Et ça, au début, c'est difficile pour l'enfant puisqu'il veut avoir tout de suite, il est dans l'immédiateté, il est dans le moment présent, il n'arrive pas toujours à se projeter sur « si je réessaye et réessaye encore, je vais y arriver ». On en a parlé un peu dans les fonctions exécutives aussi. Et là, ce que j'avais envie de vous mettre en lumière sur ce petit point de patience, c'est qu'il y a un test qui est très connu, que vous pouvez aller chercher sur Internet, qui s'appelle le test du marshmallow. Donc on a mis des enfants de 3, 4 et 5 ans dans une pièce en leur disant « tu as dans l'assiette devant toi un marshmallow, si tu arrives à ne pas le manger, donc en plus, hein, consigne négative, si tu arrives à rester là sans manger ce marshmallow, dans 10 minutes, on revient et on t'en donne un autre ». Donc, suivant l'âge de l'enfant, la durée était plus ou moins longue. Et puis, il y a des enfants qui sont vraiment ancrés dans le présent. Ils disent, le bonbon est devant moi, je le mange. Je suis sûre de l'avoir, je risque de le perdre si je ne le mange pas tout de suite. Et donc, il y a toute une étude psychologique sur les attitudes des enfants. Est-ce qu'ils regardent si la personne va vraiment revenir? Est-ce qu'il a confiance en la personne qui lui a dit « si tu attends, je t'en donne un deuxième ». Donc, il y a beaucoup de facteurs, hein. C'est une étude qui est transversale aussi sur d'autres notions que la patience. Mais en tout cas, sur la notion de patience, l'enfant qui réussit à patienter voit un bénéfice réel parce que au lieu d'en manger un seul, il en aura le double, il en aura un deuxième. Donc cette petite notion, pour nous parents qui avons vraiment dépassé ce stade de la compréhension du temps, elle peut être difficile de revenir en arrière et de reprendre en considération tout ce qu'un enfant est obligé d'enlever comme croyance sur qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que c'est patienter, qu'est-ce qu'une minute, qu'est-ce qu'une heure. Tout ça, ce sont des notions qui ont été créées par l'humain, qui n'existent pas réellement dans la nature. Et l'enfant doit se les approprier, doit se les intégrer dans son quotidien, alors que ce n'est pas vraiment accessible, ce n'est pas vraiment facile à comprendre. Donc, vous voyez aussi qu'un des intérêts de cette construction du temps pour l'enfant, ça va être de l'aider à être autonome, de l'aider à trouver sa propre méthodologie pour plus tard, hein, dans sa gestion du temps pour s'habiller, pour jouer. Il voit que s'il met beaucoup de temps à jouer, eh ben, il n'aura plus le temps ensuite de faire une autre activité. Donc au quotidien, on va voir tout à l'heure comment installer tout ça, mais ça va avoir des bienfaits sur sa méthodologie, sur son travail plus tard, sur son équilibre vie pro, vie perso. Donc tout ça, ce sont des petites pierres qu'on va poser pour sa vie future. Petite notion à préciser sur le test du marshmallow, je ne parle pas ici d'accepter la contrainte de temps comme si c'était une carotte, hein, comme si c'était une récompense et comme si l'adulte avait un intérêt à faire ça à l'enfant. Là, je me centre vraiment sur qu'est-ce qu'un enfant comprend de la notion de temps et de durée, non pas pour faire plaisir aux parents, mais vraiment pour avoir du pouvoir sur cette notion qui est très abstraite. Et puis, la notion de durée, elle va aussi simplifier par rebond la vie de famille. Parce que si l'enfant comprend la notion du temps, il sera plus à même de s'intégrer dans le planning qu'on a prévu, de coopérer, de contribuer, de collaborer à toutes les tâches de la vie de famille, parce qu'il voit un peu les notions d'avant, d'après, de durée, d'aujourd'hui, de demain, de samedi prochain. Quand il a cette notion-là personnellement acquise, il peut participer plus librement à la vie de la famille parce qu'il se sent conscient de ce qui se passe réellement et qu'il n'est pas dans un flou et une incompréhension, parce que si il voit tous les gens s'affairer autour de lui et qu'il n'a pas la notion du temps, il ne sait pas pourquoi les gens font ça. Donc ça met beaucoup de sens dans la vie collective, ce qui permet aussi d'être plus serein dans notre vie familiale. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles c'est important d'installer ça. Ça fait partie des programmes scolaires. Quand j'étais enseignante en maternelle, c'est une compétence qui se travaille sur les 3 années d'école maternelle, hein, de la petite section à la grande section. Et en élémentaire, ils reprennent ces notions-là avec des valeurs écrites, pour le coup, avec de la lecture en plus. Mais déjà, intuitivement, en maternelle, il y a beaucoup de compétences clés à acquérir pour comprendre ces notions de durée, de temporalité et de se situer dans le temps et dans l'espace. Ça fait partie du domaine de vie, comprendre le monde, et ça s'appelle avoir des repères stables, avoir des repères fixes. Donc c'est l'adulte qui va les mettre à disposition de l'enfant, on va voir comment. Et ensuite, quand l'enfant a compris ces concepts-là initiaux, il va pouvoir lui ensuite voir comment mieux comprendre, comment mieux agir dans le temps et dans la durée. Donc comment on va faire pour installer tout ça? Vous me voyez venir, je pense. On va d'abord commencer par verbaliser beaucoup de mots-clés avec notre tout jeune bébé. Avec notre jeune bébé, quand on le voit le matin, on va commencer par lui dire « Bonjour, c'est le matin, je suis contente de te voir ». Ces petits mots-clés de « bonjour », de « matin », de « soir », de « nuit », c'est déjà des mots qui font sens avec la notion de durée, avec la notion de temps. Donc on va les utiliser par habitude, on va les utiliser au quotidien, mais notre bébé va les entendre au moment clé de la journée. Le matin, pour lui, ça va être ce moment où papa rentre dans la chambre, où maman rentre dans la chambre, où on a l'impression de s'activer, il y a quelque chose du réveil, il y a quelque chose de différent dans l'énergie. Et puis le soir, c'est différent, il y a moins de lumière, les rideaux sont tirés, c'est plus doux, c'est plus calme, il y a une ambiance différente. Donc même s'il ne comprend pas tout à fait le mot matin, le mot soir. Il va comprendre avec l'ensemble de ses cinq sens, comme on a vu dans l'épisode 43 sur sa manière d'apprendre le monde. Il va entendre ces mots et il va les encoder dans sa base de données. Puis, quand l'enfant va grandir, on va commencer à mettre d'autres mots. On va commencer à mettre le mot « après manger, on ira faire la sieste » ou « plus tard, on ira se promener » ou « là, maintenant, je ne peux pas te lire une histoire parce que je suis en train d'étendre le linge ». Donc, on va poser d'autres adjectifs, d'autres adverbes, le mot « avant », le mot « après », le mot « plus tard », le mot « maintenant », le mot « tout à l'heure ». Tout ça, ça va mettre un champ lexical plus grand, plus vaste, pour que l'enfant les entende. Il ne s'agit pas encore de les produire, mais il s'agit de les entendre dans le bon contexte pour qu'il puisse ensuite les reconnaître dans un autre contexte et un jour se les approprier aussi. Plus il va les entendre et plus il va les mettre dans sa base de données, plus il pourra ensuite les réutiliser, les reformuler et puis les maîtriser en tant que termes connus, compris et sus. Donc on va décrire aussi des durées, on va commencer à expliquer qu'on reste longtemps chez mamie cet après-midi ou qu'on va rapidement faire une course. Donc la notion de vite, la notion de longtemps, la notion de rapidité, de vitesse, c'est des mots qu'il entend de temps en temps, mais sur lesquels on ne s'attarde pas. Donc là, on peut définir un peu plus. On peut même rajouter, on va passer 2 heures au parc, pourquoi pas. Donc, il se projette en se disant, tiens, 2 heures, ça a l'air d'être lié au nombre de temps. Il met ça dans le même tiroir. 2 heures, longtemps, rapide, vite, tout ça, ça appartient au tiroir du temps. Ça va se mettre en place mois après mois, année après année. Et puis, quand l'enfant a 2 ou 3 ans, on va commencer à s'appuyer aussi sur des supports. On va pouvoir installer un train de la semaine en classe ou à la maison, avec chaque wagon qui représente un jour de la semaine. On peut lui expliquer chaque matin quand il se réveille qu'on a changé de jour. Nous, on utilise une pince à linge en classe et à la maison. Donc, chaque matin, Siana, elle change la pince à linge du jour. Elle dit le nom du jour. Au début, elle ne savait pas le nom des jours. C'est avec l'habitude, en m'entendant changer la pince quand elle avait 2 ans, que maintenant elle connaît le nom des wagons, le nom des jours de la semaine. Elle sait l'ordre dans lequel les jours défilent, donc de gauche à droite dans la suite du train. Donc ça, vous allez pouvoir en télécharger un très facilement hein, sur Internet. Vous tapez train de la semaine, vous prenez plutôt des majuscules pour les noms des jours, vous l'imprimez, vous le plastifiez, vous mettez ça dans le couloir et puis chaque matin, l'enfant y fait avancer la pince à linge sur le wagon concerné. Pour structurer le temps, c'est vraiment très facile de faire comme ça la semaine. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire aussi une feuille avec des pictogrammes par journée en disant bah, le matin, tu prépares ton petit déjeuner avec un petit bol de céréales, par exemple. Donc, choisissez avec votre enfant les pictogrammes qui font sens. Vous pouvez faire avancer une pince à linge ou décaler une perle aussi. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur Internet. Donc, l'idée, c'est de trouver l'outil, le support qui va faire sens à la fois pour votre enfant et pour vous et qui va lui permettre de s'approprier ces mots et de les ranger dans sa base de données. Ça peut être des petites étiquettes avec le nom des jours. Ça peut être aussi des photos qui régulièrement montrent que le mardi, peut-être, c'est papa qui va chercher à l'école. Le samedi après-midi, c'est un moment avec sa copine Geneviève. Donc, vous pouvez, sur l'emploi du temps, sur les pictogrammes, sur le train de la semaine, rajouter des éléments pour qu'il puisse se projeter, pour qu'il puisse anticiper, pour qu'il puisse comprendre que d'un jour à l'autre, c'est cyclique, ça se répète et l'enfant va se repérer plus facilement jour après jour parce qu'il entend votre explication, parce qu'il voit le support et parce qu'il met ensemble des notions dans son cerveau. Donc c'est progressif, hein, ça prend 1 année, parfois 2 années à ce que ce soit bien maîtrisé. Mais si vous commencez quand l'enfant a entre 1 et 2 ans, il va entendre que c'est possible de comprendre, il ne va pas tout maîtriser, mais vous lui stimulez en quelque sorte ses connexions neuronales. Donc vous allez lui donner un cadeau, un pouvoir de s'approprier une notion nouvelle, une notion un peu difficile. Des fois en classe, je rajoutais en disant, tu sais, ça c'est un mot difficile, est-ce que tu veux que je te l'apprenne? Est-ce que tu veux l'entendre? Et les enfants sont toujours très contents d'avoir un petit défi à relever, un challenge à relever. Donc, on va pouvoir, par rapport à ces supports, installer des rituels. Sur la notion de rituel, je vous renvoie à l'épisode 44 qu'on a beaucoup évoqué. Si vous êtes habitué à faire le parc le matin, si vous êtes habitué à faire la douche avant le repas, tout ça, ça peut être inséré dans la routine, dans le rituel, dans l'habitude de la maison. Ça peut apparaître sur le support et vous pouvez lui faire verbaliser en disant « Qu'est-ce qu'on va faire avant de manger ? Qu'est-ce qu'on va faire après le parc ? Qu'est-ce qu'on fait avant de se brosser les dents ?» Donc, en utilisant le mot « avant », en utilisant le mot « après », en lui posant des questions, il va voir dans quel contexte, une fois de plus, ça s'utilise, dans quelle situation on l'utilise, et il va pouvoir mieux le comprendre en réception, et ensuite il va pouvoir mieux le comprendre en émission de message, en langage à proprement parler, comme je vous disais dans l'épisode 19 sur comment le langage se développe chez le jeune enfant. C'est la répétition des connaissances, c'est la répétition des phrases de l'adulte. Donc, essayez de coordonner ça un petit peu entre les deux parents, que vous ayez les mêmes façons de le présenter, la même utilisation. Parce que déjà, entre ce qu'il voit à la maison et ce qu'il va voir à l'école, il peut y avoir des nuances, des couleurs différentes, des supports différents. Donc ça, c'est pas grave, il va s'enrichir de la notion de différence. Mais dans une mesure quand même de cohérence, essayez d'avoir le même mot sur le même geste, même support dans la maison. Comme ça, il peut bien fixer la notion et se l'approprier. Dans les petites astuces qu'on avait mis en place pendant le confinement, j'avais proposé aussi aux parents de jouer avec les époques pour fixer les durées. C'est-à-dire que je leur avais proposé de mettre un écran de veille en aléatoire sur leur ordinateur pour que les photos s'affichent dans le désordre. Et on regarde les photos de l'enfant quand il avait 1 an, quand il avait 4 ans, quand il avait 7 ans, quand maman était enceinte. Et en fait, ça aide l'enfant à se dire « Ah oui, il y a beaucoup d'années qui sont passées ». Vous pouvez faire le lien aussi avec l'album photo où il souffle ses bougies. Quand il souffle une bougie, il était tout petit, 2 bougies, 3 bougies. Donc ce rapport au temps, il se construit aussi à partir des albums photos que vous avez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peut-être en version papier aussi. Vous pouvez appuyer cette construction du temps avec les photos que vous avez en réserve, en archive. Pour l'instant, faites-le avec sa vie personnelle à lui, mais on verra dans un prochain épisode sur son identité que ce sera aussi intéressant de le faire sur la génération d'avant, sur les grands-parents, hein, de voir les grands-parents quand ils étaient jeunes, mais pour un enfant de 2-3 ans, ça, ce n'est pas encore accessible. Pour l'instant, c'est plus confortable pour lui de se dire « Papy a toujours été un papy, papa a toujours été un papa ». Et quand il aura déjà compris la notion entre papy, papa et lui-même, ensuite, il verra que comme lui, il grandit. Ça veut dire que papa aussi a grandi et qu'avant, il était un garçon. Et que papy, avant, était un garçon, mais il y a très très longtemps. Vous voyez, ce sont des notions en parallèle qui, bien sûr, ont la même finalité au bout, c'est de mettre les générations dans l'ordre et de mettre les décennies dans l'ordre. Mais pour le jeune enfant, déjà comprendre qu'on n'a pas le même âge, qu'on n'a pas le même vécu, qu'on n'a pas la même taille, ce sont des premières marches de l'escalier avant d'aller dans « papy a eu le même âge que toi un jour ». Donc il y a des étapes à respecter pour que l'enfant ne soit pas complètement noyé. Mais un jour, quand vous aurez la joie d'entendre votre enfant qui dit « Bah oui, avant, mamie, c'était une petite fille comme moi », c'est chouette d'entendre que ça y est, il y a eu une notion du temps qui s'est construite dans sa tête et qu'elle est capable de se dire « Moi, j'étais un bébé et maintenant je suis une grande fille. Ma maman avant était un bébé et maintenant elle est ma maman », etc. Donc, c'est l'enfant qui va nous révéler à quel point il a compris ces notions-là. Parfois, quand on lui montre une photo, il n'arrive pas à se reconnaître lui. Il n'arrive pas à reconnaître sa maman sur la photo parce qu'il n'a pas encore ces notions abstraites de changement dans le temps, d'évolution dans le temps et de durée. Donc, soyons patients aussi avec les petits. Ça met beaucoup de temps à s'installer. Le fait qu'on soit beaucoup dans des photos numériques en ce moment lui permet peut-être d'avoir accès plus facilement à des photos support, mais on n'a pas toujours des photos d'il y a 1 an ou des photos d'il y a 2 ans. On est beaucoup dans l'instant. Donc, voyez si vous avez un fichier sur l'ordinateur où il était tout petit, juste pour voir à quel stade il en est, s'il comprend que lui aussi, il a été un bébé, comment il le comprend, comment il l'explique, et de voir après ce qu'il a compris de cette notion de la durée. sur la manière d'installer des rituels. Je vous parlais tout à l'heure d'Instagram. On a partagé en story et puis j'ai fait un réel aussi si vous voulez aller voir sur mon compte, donc les petits plus zen. Quand je suis partie en vacances avec ma grande pendant 6 jours, j'ai laissé Siana avec son papa à la maison. Et pour faciliter la séparation, pour faciliter l'absence, j'avais créé une pochette à dodo, donc avec des cœurs qui représentent les bisous des nuits où je ne suis pas là, pour lui faire le vrai bisou du soir. Donc chaque jour d'absence avait un cœur avec le nom du jour dessus. Donc il y avait un cœur pour le lundi, le mardi, jusqu'à ce que je revienne. Et sur le cœur où je revenais, il y avait des petits points. Et chaque matin, avec son papa, elle prenait le cœur du jour en disant « Aujourd'hui, maman n'est pas là, j'accroche le cœur sur le train de la semaine. » Et ça veut dire que ce soir, c'est le cœur qui me fera le bisou, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cœur dans la pochette à dodo. Et quand elle prendra le dernier cœur, celui avec les petits points, elle saura que ce jour-là, je reviens et que je lui ferai le vrai bisou de bonne nuit. Donc c'est une manière de visualiser le temps, c'est une manière de se projeter aussi dans l'absence du parent. On a refait la même chose quand c'était mon conjoint qui était parti voir ses parents en Martinique. Donc là, il y avait un peu plus de cœur, il y avait un peu plus de cœur sur le train de la semaine, il y avait parfois deux cœurs sur le dimanche, deux cœurs sur le lundi. Et c'était le même fonctionnement, Siana a bien compris que tant qu'il restait des cœurs dans la pochette, ça veut dire que papa ne revenait pas. Et quand on trouvait le dernier cœur, c'était le jour où papa revenait. Donc on a associé une notion abstraite avec un support concret du petit cœur à accrocher sur le train de la semaine. Pour arriver à cette compréhension-là, il faut déjà que l'enfant ait compris l'histoire du train de la semaine, qu'il ait compris que l'absence, le parent allait revenir, donc que l'attachement soit quand même un petit peu installé. Et puis vous voyez que ça fait aussi un travail de lecture indirectement, puisqu'on prend le même mot que celui qui est déjà sur le train de la semaine. Donc c'est une activité qui est dans un rituel, c'est une activité qui est dans une compréhension transversale du monde, hein, à la fois de l'absence, de la lecture, du temps et puis de l'attachement. Et ces idées de pochette à dodo, ces idées de représentation sur le mur, ça permet vraiment à l'enfant de symboliser et de s'approprier des choses qui sont plus compliquées qu'il n'y paraissent. C'est vraiment une notion qui a mis du temps, même pour moi en tant qu'enseignante. Mes 10 premières années d'enseignement, je n'avais pas le recul nécessaire pour savoir ce qu'un enfant de 2 ans comprenait vraiment de ce qu'on lui expliquait en classe. Parce qu'au détour d'un album, ça paraît évident qu'il y a une ellipse de temps, qu'on a changé de temps entre la page 4 et la page 6, alors que pour un jeune enfant, tout ça n'est pas accessible. Tout ça demande beaucoup de verbalisation, tout ça demande de la compréhension, de l'explicitation et vraiment de voir que dans certains livres, on a une coupure temporelle, dans certains contes, on a une coupure temporelle, dans certains dessins animés aussi, au cinéma, il y a une coupure de temps. Et comme le temps n'est pas encore très linéaire pour l'enfant, ça peut être difficile de comprendre ce qui s'est passé entre la page 6 et la page 8 ou entre la minute 14 du film et la minute 18. Donc les allers-retours dans le temps, quand on va voir un film, un dessin animé ou quand on lit un livre, ne peuvent pas être comprises vraiment de façon spontanée par un jeune enfant. Il va falloir lui expliquer d'abord comment ça marche la pendule, comment ça marche la montre. Vous avez peut-être fait déjà cet exercice-là avec votre enfant, de lui dire l'aiguille avance, là c'est pas encore l'heure de partir, on partira quand l'aiguille sera sur le 4 ou quand l'aiguille sera sur le 8. Toutes ces prises d'indices que vous allez lui montrer sur votre rapport au temps, votre rapport à la pendule, votre rapport au cadran numérique, tout ça, ça va lui donner des informations sur comment on comprend la durée, les horaires, la vitesse et la temporalité. Sur la notion du temps, j'ai envie de faire un petit point de vigilance aussi, c'est que nous, en tant que parents, on a des to-do list à rallonge, on a vraiment beaucoup de choses à faire dans notre journée, donc on a parfois un rapport au temps qui est extrêmement serré, qui est extrêmement cadencé et qui va vraiment dans la notion de vitesse, de rapidité. Quand on dit à nos enfants « dépêche-toi, on va être en retard, ça suffit, arrête, il faut qu'on se dépêche, t'as pas le temps ». Donc c'est des choses que je répète encore de temps en temps à mes filles, c'est des choses qui ne sont pas complètement parties. Donc c'est des choses qu'on a tous fait, Mais on peut réinterroger cette urgence-là, nous, en tant que parents, c'est que comme notre rapport au temps est assez stressant, finalement, ça peut donner le message à l'enfant qu'on a le temps de rien, qu'on n'a pas le temps de profiter, qu'on n'a pas le temps de faire des choses qui font plaisir, qui font sens et tout ça. Donc, je remets cette petite goutte que vous avez déjà vécue dans l'épisode 8 du Tequil, qui est de prendre aussi du temps de qualité entre deux périodes de rush. Il va y avoir des périodes de rush dans notre journée, il va y avoir des dossiers à boucler, il va y avoir des rendez-vous à honorer. Quand on a rendez-vous chez le médecin, il va falloir qu'on se speed pour y arriver à l'heure et être dans la salle d'attente à l'heure, même si c'est pour poireauter 10 minutes quand même parce qu'il y a un décalage d'horaire. Mais en réalité, l'engagement qu'on a au temps en tant que parent, elle n'est pas toujours très stable pour un enfant. Il ne comprend pas pourquoi on se stresse à ce point-là pour quelque chose qui n'existe pas. Le temps, matériellement, n'existe pas encore pour l'enfant. Et il nous voit courir dans tous les sens, il nous voit nous énerver, nous fatiguer, lui crier dessus, et il ne sent pas l'urgence comme nous. Donc on peut se poser aussi un petit peu, nous, en tant que parents, pour voir quel rapport au temps on a. Est-ce qu'on est toujours en train de courir? Est-ce qu'on a toujours une to-do list à rallonge? Est-ce qu'on a de temps en temps du temps libre pour se poser, pour kiffer, pour prendre plaisir, pour savourer un petit imprévu avec notre enfant? Parce que vous connaissez ma position sur la puissance du modèle, sur les neurones miroirs. C'était dans l'épisode 6. L'enfant va ressentir le temps comme nous, on lui montre qu'on le ressent. Si nous, on a un rapport au temps très compliqué, ben peut-être que l'enfant va se dire « Le temps, c'est compliqué aussi, c'est stressant, c'est fatigant, faut toujours aller vite, on a le temps de rien et tout ça. » Donc, l'émotion qu'on va transmettre par rapport au temps va quelque part être incarnée par notre comportement, nos actions, nos phrases, nos décisions. Donc, c'est un petit point de vigilance. Je vous engage à réfléchir à ce que vous montrez de la notion du temps comme ressenti dans votre vie d'adulte. Il y a des moments où on n'est pas maître de notre temps, vraiment. Et ça nous énerve tellement dans notre cheminée des émotions à nous, qui n'a rien à voir avec celle de notre enfant, que ça transmet à l'enfant le message du « Non, mais il faut absolument que je fasse ça, tu ne te rends pas compte, c'est très important, il faut que je le finisse, vite, dépêche-toi, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Donc, notre enfant entend le stress qui est lié à cette condition temporelle de finir ça, de tenir cet horaire-là, de tenir cette durée-là, cette cadence-là. Donc, ça fait sens pour nous en tant qu'adultes, on pense que c'est la meilleure solution, mais le message qui est transmis à notre enfant n'est peut-être pas celui qu'on aimerait lui donner. Donc, petit point, je lance ça, hein. Prenez au vol si ça vous intéresse, parce que la réalité extérieure n'est pas complètement la même pour chacun des parents, déjà, pour chacune des personnes qu'il va croiser dans sa journée. Peut-être qu'il a un enseignant très très stressé par rapport au temps, qui est nerveux dès qu'il y a une durée, une sonnerie, la fin du cours, l'interrogation. Peut-être qu'il est très nerveux par rapport à ces sujets-là. Et puis, il a un autre enseignant qui est très cool par rapport à la durée, du temps, qui s'exprime calmement. Donc, autour de lui, notre enfant, il va voir différents rapports au temps. Il va s'imprégner de ce que chacun met derrière le terme de temps, de durée, de temporalité. Mais comme nous, on est les parents qui vont avoir le plus de résonance dans son quotidien, on peut aussi se demander quelle est l'image qui se dégage de notre vie. La difficulté aussi quand ils grandissent, c'est d'admettre qu'on ne peut pas contrôler complètement notre utilisation du temps. Le jeune enfant, quand il va avoir sa période sensible de l'ordre, quand il veut que tout se passe comme il a décidé, que tout soit rangé dans l'ordre, que ça se passe comme d'habitude, là où les rituels qu'on a installés font sens, eh ben, l'imprévu devient difficile pour l'enfant. À ce stade-là, qui est entre 2 et 6 ans, hein, suivant les enfants, il va être très dérangé, notre enfant, par l'imprévu, par ce qui ne se passe pas comme on lui avait dit, par le fait qu'on ne va pas finalement acheter la glace parce qu'entre-temps, on a croisé un copain et que ça nous a ralenti et qu'on n'a plus le temps d'aller manger la glace. Tout ça, notre enfant n'arrive pas à mettre du sens parce qu'on lui avait dit que ça allait se passer comme ça, il s'était projeté comme ça dans son emploi du temps intérieur et que finalement il doit revenir sur son organisation intérieure. Donc il y a des adultes hein, qui restent comme ça aussi, qui ont du mal à être dans la flexibilité de l'imprévu. Donc on peut mettre un peu de nuance aussi avec nos enfants en disant ben, « cet après-midi, je pense qu'on va essayer de faire ça, peut-être qu'on ira là », de remettre un petit peu d'adverbe à une certaine période, quand vous commencez qu'il est sensible aux imprévus et aux changements d'emploi du temps, de remettre un peu de doute dans ce que vous prévoyez de faire. Parce que les imprévus, par définition, même nous adultes, on ne va pas toujours pouvoir les anticiper. Et eux, comme ils se basent sur nous pour le respect de l'emploi du temps, ils vont se retrouver dans une position inconfortable, presque d'insécurité, en disant « mais tu m'avais dit qu'on allait faire ça et on ne le fait pas ». Comme s'il y avait un trou dans le pacte de confiance. Alors que si on met un peu plus de nuance en disant bah, « j'espère qu'on aura le temps d'aller acheter ça avant que papa revienne et qu'on aille chez le docteur », voilà, vous pouvez lui mettre en main le marché. Le marché, c'est on va essayer de faire le point A, le point B et le point C. Peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'on ne va pas y arriver. De réintroduire un tout petit peu de doute, de possibilité que les choses ne se passent pas comme prévu, puisque la vie est parfois imprévisible. Donc on peut anticiper, mais aussi on peut dire qu'on va ajuster au cas où, puisque les urgences peuvent intervenir, il peut y avoir quelque chose avec notre ado, il peut y avoir quelque chose avec notre belle-mère, il peut y avoir la babysitter qui ne vient pas, etc. Donc, présenter aux enfants qu'on a un plan de vol, mais que le plan de vol peut être modifié, c'est une richesse par rapport à leur rigidité pendant la période sensible de l'ordre. Donc il ne s'agit pas de les gronder en disant « Ah, mais c'est comme ça, tu comprends pas, c'est pas grave. » Il s'agit de leur dire « Ça peut arriver de changer de décision, ça peut arriver de changer d'avis. Oui, on avait dit qu'on irait à la piscine dimanche, mais là, dans le journal, il y a écrit que dimanche, la piscine est fermée. » Notre enfant est vexé parce que ça contrarie quelque chose qui lui faisait plaisir par avance. Donc nous, on va accueillir, une fois de plus, sa flamme désagréable dans sa cheminée des émotions. On ne va pas être responsable de sa flamme, on ne va pas être responsable du fait que la piscine soit fermée. On va calmement lui décrire les faits. La piscine est fermée, je comprends que tu es triste, j'avais prévu d'y aller, mais tu vois, on ne peut pas décider de tout dans la vie. Et ça va nous arriver tout le temps. Dans les 10 prochaines années, il va y avoir des imprévus. Et notre enfant va entendre que la vie est imprévisible aussi. Donc plus on fait la paix, nous, en tant qu'adultes et que parents, sur le fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans notre planning, dans notre liste, plus l'enfant aura une souplesse et une flexibilité, et peut-être même une capacité de rebond, qui sera plus facile parce qu'il est plus jeune. Il y a des enfants qui ont du mal à accepter le changement, parce qu'ils pensent contrôler les événements extérieurs, parce qu'ils pensent que tout est maîtrisable. C'est une manière de se rassurer, de vouloir contrôler ce qui se passe, mais quand on grandit, on se rend compte que ce n'est pas possible et que finalement les parents non plus n'ont pas la main sur tout. On ne peut pas contrôler tout l'extérieur. Donc il y a un passage inconfortable pour l'enfant. Il y a eu un passage inconfortable pour nous aussi, à plusieurs occasions de notre vie, où on aurait voulu que ça se passe comme on avait prévu et que finalement, ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu. Donc, faisons confiance à nos enfants pour voir que même nous, en tant que parents, on n'a pas la main totale sur la temporalité, on n'a pas la main totale sur la durée. On peut prévoir que le jardinage va durer une heure, et puis en fait, au bout d'une heure, on n'aura peut-être pas fini parce qu'il y a eu des imprévus. Donc on peut verbaliser ça, une fois de plus, avec nos enfants, pour que petit à petit, ils puissent adapter et même prévoir une marge d'erreur possible quand lui, il va avoir aussi des instants à caler dans son emploi du temps, peut-être au collège, etc. C'est important de leur donner ça très jeune, parce qu'on se rend compte qu'en méthodologie scolaire, quand les enfants arrivent au collège, ils sont un petit peu perdus sur toutes ces notions du temps. Chaque adulte donne ses références à lui, et comme là, il se retrouve avec plusieurs enseignants, c'est bien difficile. Et mon ado, quand elle est arrivée en 6e, même si je lui avais donné des tips d'organisation, il y a eu un moment de flottement sur personne n'est d'accord entre eux. Il y en a qui disent les devoirs c'est pour demain et tout le monde dit c'est pour demain. Donc vous en êtes peut-être pas encore à cette phase de collège, mais notre enfant, quand il a entre 2 et 5 ans, lui donner en main l'idée qu'il peut comprendre le temps et qu'il peut s'organiser et que même en s'organisant, il y aura des imprévus, je pense que c'est un cadeau qu'on leur fait en leur disant « Si tu as besoin d'aide, tu demandes de l'aide. Peut-être que ce n'est pas ce que tu avais prévu et on ajuste, on admet, on anticipe et chacun a des ressentis par rapport au temps qui sont différents. » Donc, on peut essayer de jouer un peu plus, on peut essayer de jouer avec le temps aussi, de mettre le minuteur par exemple pour faire des durées différentes en disant ben, on va au bain dans 10 minutes, hop, je déclenche le minuteur. Quand le minuteur sonne, ça voudra dire que les 10 minutes sont passées. Dans 10 minutes, on ira au bain. Vous installez une compréhension du temps par l'utilisation d'un timer, l'utilisation d'un minuteur, avec les aiguilles de la pendule, avec tous les supports qui vous paraissent pertinents pour qu'ils ne ressentent pas le temps comme une contrainte extérieure, mais qu'ils s'en approprient une partie des bénéfices et une partie de la maîtrise. Il n'aura pas un pouvoir complet sur le temps, mais il aura une certaine clarté, il aura une certaine possibilité de résultat, de détente et un certain accomplissement aussi de comprendre mieux qu'avant comment se passe une journée, une semaine, un mois, un cycle. Vous pouvez aller même jusqu'aux saisons si vous avez envie d'aborder la question du temps sur une année. Voilà, l'été revient, son anniversaire revient, Noël revient. Ce sont des éléments de temps. Quand on fait le calendrier sur l'année avec la classe de moyenne section ou de grande section, qu'on introduit petit à petit quand on sent que les élèves sont réceptifs, quand on sent que les élèves ont ouvert un nouveau fichier dans leur base de données concernant le temps. Donc avec patience, avec répétition, avec empathie, il va y avoir des moments où ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, il va y avoir des moments où ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Donc prenez vraiment du temps, c'est le cas de le dire, pour faire passer ces notions de temps. Et nous, par rapport à notre rapport au temps, si vous voulez qu'on explore un petit peu cette question-là, n'hésitez pas à me contacter. On en parle aussi dans le programme Emotizen, qui est en cours avec les 7 mamans formidables que j'accompagne. Donc ce rapport au temps, quand on est maman, il a complètement changé. Ce rapport au temps, il a fallu le redéfinir. Alors parfois, on peut compter sur le coparent. Parfois, on est maman solo et c'est difficile parce que notre rapport au temps a complètement explosé. Donc, revisitons aussi notre rapport au temps en tant que femme, en tant que parent, pour voir ensuite comment le transmettre à notre tour, à nos enfants, à nos beaux-enfants aussi, puisque c'est le cas d'une des mamans que j'accompagne. Et dans cette notion-là, on est en co-création avec la vie. On n'est pas les seuls à transmettre cette notion du temps. L'enfant va être en contact avec plein d'éléments, plein de notions qui vont l'aider à co-construire cette question du temps. Voilà, pour cette notion qui est un petit peu abstraite, j'espère que ça vous a paru accessible de vous approprier les pistes en famille ou en classe. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, les rituels, les routines et les supports en maternelle. Donc j'en ai plein ma cave d'avoir ramené des supports que j'avais utilisés sur 22 ans. Et puis maintenant, Siana en bénéficie largement. Par rapport à l'actualité des Petits Plus Zen, je vous propose deux choses aujourd'hui. Je vous propose de nous rejoindre sur Clubhouse pour le mois de juin, pour le cercle parentalité qui va commencer vendredi 3. C'est le cercle parentalité, c'est des rooms où on se rejoint en audio. Donc vous vous connectez sur votre application Clubhouse. L'application est gratuite. Et ensuite, vous participez à un sujet entre mamans et vous posez vos questions en direct. Je vous réponds, on est entre nous, ce n'est pas enregistré, on est en toute confidentialité, on est en toute intimité. Et les 8 rooms par mois, ça représente 12 heures d'écoute, de soutien. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ces 12 heures de soutien, vous pouvez m'envoyer un message par mail, par Instagram ou par Facebook. Et puis c'est 40€ pour les 8 rooms, 40€ pour les 12 heures pour tout le mois de juin. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez qu'on se voit en vrai, ça va être possible. Je vais donner ma première conférence le samedi 11 juin. Ça va être à Houille, dans la salle qui s'appelle Chez Isa, rue Camille Pelletan. Donc Je vais donner 3 heures de conférence avec une présentation des 3 outils que vous connaissez bien maintenant, qui regroupent les épisodes 7 à 10, donc la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel des besoins et le tequil. Je vais proposer ça aux familles de la ville qui seront intéressées. Donc je suis ravie de faire ça en 3D, vraiment, dans la vraie vie. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le 78, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter pour que je vous mette une place de côté si vous voulez venir à cette conférence. Et puis en sortie de zone de confort, je vais vous rajouter un petit point. J'ai ouvert un compte TikTok, je me suis lancée. Donc si vous voulez me rajouter, c'est les petits plus zen. C'est la même photo de profil que d'habitude, une photo un petit peu sur un fond violet. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et la semaine prochaine, on va parler de l'identité de nos enfants, de sa filiation, de sa généalogie et de son unicité. Si ce podcast vous plaît, prenez une minute, s'il vous plaît, pour mettre des étoiles sur Apple Podcast, mettre un avis ou un commentaire pour le faire grandir en visibilité auprès des autres parents. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.